Chapitre 2. Bientôt la princesse de Babylone et le phénix arrivèrent dans l'empire des Cimmériens, bien moins peuplé à la vérité que la Chine, mais deux fois plus étendu. Autrefois semblable à la Scythie, est devenu depuis quelque temps aussi florissant que les royaumes qui se vantaient d'instruire les autres États. Après quelques jours de marche, on entra dans une très grande ville que l'impératrice régnante faisait embellir. Mais elle n'y était pas. Elle voyageait alors des frontières de l'Europe à celles de l'Asie pour connaître ses états par ses yeux, pour juger des maux et porter les remèdes, pour accroître les avantages, pour semer l'instruction. Un des principaux officiers de cette ancienne capitale, instruit de l'arrivée de la Babylonienne et du Phénix, s'empressa de rendre ses hommages à la princesse et de lui faire les honneurs du pays, bien sûr que sa maîtresse, qui était la plus polie et la plus magnifique des reines, lui serait gré d'avoir reçu une si grande dame avec les mêmes écarts qu'elle aurait prodigués elle-même. On logea Folvocente au palais dont on écarta une foule importune du peuple. On lui donna des fêtes ingénieuses. Le seigneur cimmérien, qui était un grand naturaliste, s'entretint beaucoup avec le phénix dans les temps où la princesse était retirée dans son appartement. Le phénix lui avoua qu'il avait autrefois voyagé chez les cimmériens et qu'il ne reconnaissait plus le pays. « Comment de si prodigieux changements, disait-il, ont-ils pu être opérés pendant un temps si court ? Il n'y a pas 300 ans que je vis ici la nature sauvage dans toute son horreur et j'y trouve aujourd'hui les arts, la splendeur, la gloire et la politesse. Un seul homme a commencé ce grand ouvrage, répondit le cimmérien. Une femme l'a perfectionné. Une femme a été meilleure législatrice que l'Isis des Égyptiens et la Cérès des Grecs. La plupart des législateurs ont eu un génie étroit et despotique qui a resserré leur vue dans le pays qu'ils ont gouverné. Chacun a regardé son peuple comme étant seul sur la terre ou comme devant être l'ennemi du reste de la terre. Ils ont formé des institutions pour ce seul peuple, introduit des usages pour lui seul, établi une religion pour lui seul. C'est ainsi que les Égyptiens, si fameux par des monceaux de pierre, se sont abrutis et déshonorés par leurs superstitions barbares. Ils croient les autres nations profanes, ils ne communiquent point avec elles, et, excepté la cour, qui s'élève quelquefois par-dessus des préjugés vulgaires, il n'y a pas un Égyptien qui voulût manger dans un plat dont un étranger se serait servi. Leurs prêtres sont cruels et absurdes. Il vaudrait mieux n'avoir point de loi et n'écouter que la nature, qui a gravé dans nos cœurs les plus caractères du juste et de l'injuste, que de soumettre la société à des lois si insociables. Notre impératrice embrasse des projets entièrement opposés. Elle considère son vaste état, sur lequel tous les méridiens viennent se joindre, comme devant correspondre à tous les peuples qui habitent sous ces différents méridiens. La première de ces lois était la tolérance de toutes les religions et la compassion pour toutes les erreurs. Son puissant génie a connu que, si les cultes sont différents, la morale est partout la même. Par ce principe, elle a lié sa nation à toutes les nations du monde. Et les Cimmériens vont regarder le Scandinavien, le Chinois, comme leur frère. Elle a fait plus. Elle a voulu que cette précieuse tolérance, le premier lien des hommes, s'établit entre ses voisins. Ainsi, elle a mérité le titre de mère de la patrie et elle aura celui de bienfaitrice du genre humain, si elle persévère. Avant d'elle, les hommes, malheureusement impuissants, envoyer des troupes de meurtriers, ravir à des peuples inconnus et arroser de leur sang les héritages de leurs pères. On appelait ces assassins des héros. Leur brigandage était de la gloire. Notre souveraine a une autre gloire. Elle a fait marcher les armées pour apporter la paix, pour empêcher les hommes de se nuire, pour les forcer à se supporter les uns les autres, et ses étendards ont été ceux de la concorde publique. Le phénix, enchanté de tout ce qui lui apprenait, ce seigneur, lui dit « Monsieur, il y a 27 900 années et 7 mois que je suis au monde. Je n'ai encore rien vu de comparable à ce que vous me faites entendre. » Il lui demanda des nouvelles de son ami Amazan. Le Cimérien lui conta les mêmes choses qu'on avait dites à la princesse chez les Chinois et chez les Scythes. Amazan s'enfuyait de toutes les cours qu'il visitait sitôt qu'une dame lui avait donné un rendez-vous auquel il craignait de succomber. Le phénix instruisit bientôt Formosan de cette nouvelle marque de fidélité qu'Amazan lui donnait. Fidélité d'autant plus étonnante qu'il ne pouvait pas soupçonner que sa princesse en fût jamais informée. Il était parti pour la Scandinavie. Ce fut dans ces climats que des spectacles nouveaux frappèrent encore ses yeux. Ici, la royauté et la liberté subsistaient ensemble par un accord qui paraît impossible dans d'autres États. Les agriculteurs avaient part à la législation aussi bien que les grands du royaume. Et un jeune prince donnait les plus grandes espérances d'être digne de commander à une nation libre. Là, c'était quelque chose de plus étrange. Le seul roi qui fut despotique de droit sur la terre par un contrat formel avec son peuple était en même temps le plus jeune et le plus juste des rois. Chez les Sarmates, Armazan vit un philosophe sur le trône. On pouvait l'appeler le roi de l'anarchie, car il était le chef de 100 000 petits rois dont un seul pouvait d'un mot anéantir les résolutions de tous les autres. Éole n'avait pas plus de peine à contenir tous les vents qui se combattent sans cesse que ce monarque n'en avait à concilier les esprits. C'était un pilote environné d'un éternel orage. Et cependant, le vaisseau ne se brisait pas, car le prince était un excellent pilote. En parcourant tous ces pays si différents de sa patrie, Amazan refusait constamment toutes les bonnes fortunes qui se présentaient à lui. Toujours désespéré du baiser que Formosan avait donné au roi d'Égypte, toujours affermi dans son inconcevable résolution de donner à Formosan l'exemple d'une fidélité unique et inébranlable. La princesse de Babylone, avec le phénix, le suivait partout à la piste, et ne le manquait jamais que d'un jour ou deux, sans que l'un se lassât de courir et sans que l'autre perdît un moment à le suivre. Ils traversèrent ainsi toute la Germanie. Ils admirèrent les progrès que la raison et la philosophie faisaient dans le Nord. Tous les princes y étaient instruits, tous autorisaient la liberté de penser. Leur éducation n'avait point été confiée à des hommes qui eussent intérêt de les tromper ou qui fussent trompés eux-mêmes. On les avait élevés dans la connaissance de la morale universelle et dans le mépris des superstitions. On avait banni dans tous ces états un usage insensé qui énervait et dépeuplait plusieurs pays méridionaux. Cette coutume était d'enterrer tout vivant dans de vastes cachots, un nombre infini des deux sexes, éternellement séparés de l'un d'autre, et de leur faire jurer de n'avoir jamais de communication ensemble. Cet excès de démence, accrédité pendant des siècles, avait dévasté la terre autant que les guerres les plus cruelles. Les princes du Nord avaient à la fin compris que, si on voulait avoir des haras, il ne fallait pas séparer les plus forts chevaux des cavales. Ils avaient détruit aussi des erreurs non moins bizarres et non moins pernicieuses. Enfin, les hommes osaient être raisonnables dans ces vastes pays, tandis qu'ailleurs, on croyait encore qu'on ne peut les gouverner qu'autant qu'ils sont imbéciles. Amazan arriva chez les Bataves. Son cœur éprouva une douce satisfaction dans son chagrin d'y retrouver quelque faible image du pays des heureux Gangarides. La liberté, l'égalité, la propreté, l'abondance, la tolérance. Mais les dames du pays étaient si froides qu'aucune ne lui fit d'avance, comme on lui en avait fait partout ailleurs. Il n'eut pas la peine de résister. S'il avait voulu attaquer ces dames, il les aurait toutes subjuguées l'une après l'autre, sans être aimé d'aucune. Mais il était bien éloigné de songer à faire des conquêtes. Formosan fut sur le point de l'attraper chez cette nation insipide. Il ne s'en fallut que d'un moment. Amazan avait entendu parler chez les Bataves avec tant d'éloges d'une certaine île nommée Albion, qu'il s'était déterminé à s'embarquer, lui et ses licornes, sur un vaisseau qui, par un vent d'Orient favorable, l'avait porté en 4 heures au rivage de cette terre, plus célèbre que Tyre et que l'île Atlantide. La belle Formosante qu'il avait suivie au bord de la Dutna, dans la Vistule de l'Elbe du Vézère, arrive enfin aux bouches du Rhin, qui portait alors ses eaux rapides dans la mer germanique. Elle apprend que son cher amant a vogué aux côtes d'Albion. Elle croit voir son vaisseau. Elle pousse des cris de joie dont toutes les dames bataves surprises, n'imaginant pas qu'un jeune homme pût causer tant de joie. Et à l'égard du phénix, elles n'en firent pas grand cas, parce qu'elles jugèrent que ses plumes ne pourraient probablement se vendre aussi bien que celles des canards et des oiseaux de leur marais. La princesse de Babylone loua ou nolisa 2 vaisseaux pour la transporter avec tout son monde dans cette bienheureuse île qui allait posséder l'unique objet de tous ses désirs, l'âme de sa vie, le dieu de son cœur. Un vent funeste d'Occident s'éleva tout à coup dans le moment même où le fidèle et malheureux Amazan mettait pied à terre en Albion. Les vaisseaux de la princesse de Babylone ne purent démarrer. Un serrement de cœur, une douleur amère, une mélancolie profonde saisirent Formosante. Elle se mit au lit dans sa douleur en attendant que le vent changeât. Mais il souffla 8 jours entiers avec une violence désespérante. La princesse, pendant ce siècle de 8 jours, se faisait lire par Iria des romans. Ce n'est pas que les Bataves en sussent faire, mais comme ils étaient les facteurs de l'univers, ils vendaient l'esprit des autres nations ainsi que leurs denrées. La princesse fit acheter chez Marc Michel Ray tous les contes que l'on avait écrits chez les Ausoniens et chez les Welches, et dont le débit était défendu sagement chez ces peuples pour enrichir les Bataves. Elle espérait qu'elle trouverait dans ces histoires quelque aventure qui ressemblerait à la sienne et qui charmerait sa douleur. Iria lisait. Le phénix disait son avis, et la princesse ne trouvait rien dans la paysanne parvenue, ni dans Tansai, ni dans le sofa, ni dans les 4 facardins, qui eut le moindre rapport à ses aventures. Elle interrompait à tout temps la lecture pour demander de quel côté venait le vent. Cependant, Amazan était déjà sur le chemin de la capitale d'Albion, dans son carrosse à 6 licornes, et rêvait à sa princesse. Il aperçut un équipage versé dans un fossé. Les domestiques s'étaient écartés pour aller chercher du secours. Le maître de l'équipage restait tranquillement dans sa voiture, ne témoignant pas la plus légère impatience et s'amusant à fumer, car on fumait alors. Il se nommait Milord Wadden, ce qui signifie à peu près, Milord, n'importe quoi, en la langue dans laquelle je traduis ses mémoires. Amazon se précipita pour lui rendre service. Il releva tout seul la voiture, tant sa force était supérieure à celle des autres hommes. Milord, qu'importe, se contenta de dire « Oh, voilà un homme bien vigoureux !» Les rustres du voisinage, étant accourus, se mirent en colère de ce qu'on les avait fait venir inutilement et s'en prirent à l'étranger. Ils le menacèrent en l'appelant « chien d'étranger » et ils voulurent le battre. Amazon en saisit deux de chaque main et les jeta à 20 pas. Les autres le respectèrent, le saluèrent, lui demandèrent pour boire. Et il leur donna plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu. Milord, qu'importe, lui dit, « Je vous estime, allez venez dîner avec moi dans ma maison de campagne, qui n'est qu'à 3 000. » Il monta dans la voiture d'Almazan, parce que la sienne était dérangée par la secousse. Après un quart d'heure de silence, il regarda un moment Amazon et lui dit « How do I do ?» À la lettre « Comment faites-vous faire ?» Et dans la langue du traducteur « Comment vous portez-vous » Ce qui ne veut rien dire du tout en aucune langue. Puis il ajouta « Oh, vous avez là 10 jolies licornes !» Et il se remit à fumer. Le voyageur lui dit que ses licornes étaient à son service, qu'il venait avec elle du pays de Gangaride, et il en prit occasion de lui parler de la princesse de Babylone et du fatal baiser qu'elle avait donné au roi d'Égypte. À quoi l'autre ne répliqua rien du tout, se souciant très peu qu'il y eût dans le monde un roi d'Égypte et une princesse de Babylone. Il fut encore un quart d'heure sans parler. Après quoi, il redemanda à son compagnon comment il faisait faire et si on mangeait du bon roast beef dans le pays des Gargarides. Le voyageur lui répondit avec sa politesse ordinaire qu'on ne mangeait point ses frères sur les bords du Gange. Il lui expliqua le système qui fut après tant de siècles celui de Pythagore, de Porphyre, de Iamblique, sur quoi Milord s'endormit et ne fit qu'un somme jusqu'à ce qu'on fût arrivé à sa maison. Il avait une femme jeune et charmante, à qui la nature avait donné une âme aussi vive et aussi sensible que celle de son mari était indifférente. Plusieurs seigneurs albioniens étaient venus ce jour-là dîner avec elle. Il y avait des caractères de toutes les espèces, car le pays n'ayant presque jamais été gouverné que par des étrangers, les familles venues avec ces princes avaient toutes apporté des mœurs différentes. Il se trouva dans la compagnie de gens très aimables, d'autres d'un esprit supérieur, quelques-uns d'une science profonde. La maîtresse de la maison n'avait rien de cet air emprunté gauche, de cette roideur, de cette mauvaise honte qu'on reprochait alors aux jeunes femmes d'Albion. Elle ne cachait point, par un maintien dédaigneux et par un silence affecté, la stérilité de ses idées et l'embarras humiliant de n'avoir rien à dire. Nulle femme n'était plus engageante. Elle reçut Amazan avec la politesse et les grâces qui lui était naturel. L'extrême beauté de ce jeune étranger et la comparaison soudaine qu'elle fit entre lui et son mari la frappèrent d'abord sensiblement. On servit. Elle fit asseoir Amazan à côté d'elle et lui fit manger des puddings de toute espèce, ayant su de lui que les Gangarides ne se nourrissait de rien qui eût reçu des dieux le don céleste de la vie. Sa beauté, sa force, les mœurs des Gangarides, les progrès des arts, La religion et le gouvernement furent le sujet d'une conversation aussi agréable qu'instructive pendant le repas, qui dura jusqu'à la nuit, et pendant lequel Milord, qu'importe, but beaucoup et ne dit mot. Après le dîner, pendant que Milady versait du thé et qu'elle dévorait les yeux le jeune homme, il s'entretenait avec un membre du Parlement. Car chacun sait que dès lors il y avait un Parlement et qu'il s'appelait Witenagemot, ce qui signifie l'assemblée des gens d'esprit. Amazon s'informait de la Constitution, des mœurs, des lois, des forces, des usages, des arts qui rendaient ce pays si recommandable. Et ce seigneur lui parlait en ces termes. Nous avons longtemps marché tout nus, quoique le climat ne soit pas chaud. Nous avons été longtemps traités en esclaves par des gens venus de l'antique terre de Saturne, arrosés des eaux du Tibre. Mais nous nous sommes faits nous-mêmes beaucoup plus de maux que nous n'avions essuyés de nos premiers vainqueurs. Un de nos rois a poussé la bassesse jusqu'à se déclarer sujet d'un prêtre qui demeurait ainsi sur les bords du Tibre et qu'on appelait le vieux des sept montagnes. Tant la destinée de ces sept montagnes a été longtemps de dominer sur une grande partie de l'Europe, habitée alors par des brutes. Après ces temps d'avilissement, sont venus des siècles de férocité et d'anarchie. Notre terre, plus orageuse que les mers qui l'environnent, a été saccagée et ensanglantée par nos discordes. Plusieurs têtes couronnées ont péri par le dernier supplice. Plus de 100 princes du sang des rois ont fini leurs jours sur l'échafaud. On a arraché le cœur de tous les adhérents et on en a battu leurs joues. C'était au bourreau qu'il appartenait d'écrire l'histoire de notre île, puisque c'était lui qui avait terminé toutes les grandes affaires. Il n'y a pas longtemps que, pour comble d'horreur, quelques personnes portant un manteau noir et d'autres qui mettaient une chemise blanche par-dessus leur jaquette, ayant été mordus par des chiens enragés, communiquèrent la rage à la nation entière. Tous les citoyens furent ou meurtriers ou égorgés, ou bourreaux ou suppliciés, ou déprédateurs ou esclaves, au nom du ciel et en cherchant le Seigneur. Qui croirait que de cet abîme épouvantable, de ce chaos de dissension, d'atrocité, d'ignorance et de fanatisme, il est enfin résulté le plus parfait gouvernement peut-être qui soit aujourd'hui dans le monde? Un roi honoré et riche, tout puissant pour faire le bien, impuissant pour faire le mal, est à la tête d'une nation libre, guerrière, commerçante et éclairée. Les grands d'un côté et les représentants des villes de l'autre partagent la législation avec le monarque. On avait vu, par une fatalité singulière, le désordre, les guerres civiles, l'anarchie et la pauvreté désolaient le pays quand les rois affectaient le pouvoir arbitraire. La tranquillité, la richesse, la félicité publique ne régnaient chez nous que quand les rois ont reconnu qu'ils n'étaient pas absolus. Tout était subverti quand on disputait sur des choses inintelligibles, et tout a été dans l'ordre quand on les a méprisés. Nos flottes victorieuses portent notre gloire sur toutes les mers, et les lois mettent en sûreté nos fortunes. Jamais un juge ne peut les expliquer arbitrairement. Jamais on ne rend un arrêt qui ne soit motivé. Nous punirions comme des assassins des juges qui oseraient envoyer à la mort un citoyen sans manifester les témoignages qui l'accusent et la loi qui le condamne. Bon, il est vrai qu'il y a toujours chez nous deux partis qui se combattent avec la plume et avec des intrigues, mais aussi ils se réunissent toujours quand il s'agit de prendre les armes pour défendre la patrie et la liberté. Ces deux partis veillent l'un sur l'autre. Ils s'empêchent mutuellement de violer le dépôt sacré des lois. Ils se haïssent, mais ils aiment l'État. Ce sont des amants jaloux qui servent à l'envie la même maîtresse. Du même fond d'esprit qui nous a fait connaître et soutenir les droits de la nature humaine, nous avons porté les sciences au plus haut point où elles puissent parvenir chez les hommes. Vos Égyptiens, qui passent pour de si grands mécaniciens, vos Indiens, qu'on croit de si grands philosophes, vos Babyloniens, qui se vantent d'avoir observé les astres pendant 430 000 années, les Grecs, qui ont écrit tant de phrases et si peu de choses, ne savent précisément rien en comparaison de nos moindres écoliers qui ont étudié les découvertes de nos grands maîtres. Nous avons arraché plus de secrets à la nature dans l'espace de 100 années que le genre humain en avait découvert dans la multitude des siècles. Voilà, au vrai, l'état où nous sommes. Je ne vous ai caché ni le bien ni le mal, ni nos opprobres ni notre gloire. Et je n'ai rien exagéré. Bazan, à ce discours, se sentit pénétré du désir de s'instruire dans ces sciences sublimes dont on lui parlait. Et si sa passion pour la princesse de Babylone, son respect filial pour sa mère qu'il avait quittée, et l'amour de sa patrie n'eussent fortement parlé à son cœur déchiré, il aurait voulu passer sa vie dans l'île d'Albion. Mais ce malheureux baiser donné par la princesse au roi d'Égypte ne lui laissait pas assez de liberté dans l'esprit pour étudier les hautes sciences. Je vous avoue, dit-il, que m'ayant imposé la loi de courir le monde et de m'éviter moi-même, je serais curieux de voir cet antique terre de Saturne, ce peuple du Tibre et les 7 montagnes à qui vous avez obéi autrefois. Il faut sans doute que ce soit le premier peuple de la terre. Je vous conseille de faire ce voyage, lui répondit l'Albionien, pour peu que vous aimiez la musique et la peinture. Nous allons très souvent, nous-mêmes, porter quelquefois notre ennui vers les 7 montagnes. Mais vous serez bien étonnés en voyant les descendants de nos vainqueurs. Cette conversation fut longue. Quoique le bel Amazan eût la cervelle un peu attaquée, il parlait avec tant d'agrément, sa voix était si touchante, son maintien si noble et si doux, que la maîtresse de la maison ne put s'empêcher de l'entretenir à son tour, tête à tête. Elle lui serra tendrement la main en lui parlant et ne le regardant avec des yeux humides et étincelants qui portaient les désirs dans tous les ressorts de la vie. Elle le retint à souper et à coucher. Chaque instant, chaque parole, chaque regard enflammèrent sa passion. Dès que tout le monde fut retiré, elle lui écrivit un petit billet, ne doutant pas qu'il ne vînt lui faire la cour dans son lit, tandis que Milord, qu'importe, dormait dans le sien. Amazan eut encore le courage de résister, tant un grain de folie produit l'effet miraculeux dans une âme forte et profondément blessée. Amazan, selon sa coutume, fit à la dame une réponse respectueuse par laquelle il lui représentait la sainteté de son serment et l'obligation étroite où il était d'apprendre la princesse de Babylone à dompter ses passions. Après quoi, il fit atteler ses licornes et repartit pour la Batavie, laissant toute la compagnie émerveillée de lui et la dame du logis désespérée. Dans l'excès de sa douleur, elle laissa traîner la lettre d'Amazan. Milord, qu'importe, la lut le lendemain matin. Voilà, dit-il en levant les épaules de bien plate niaiserie. Et il alla chasser au renard avec quelques ivrognes du voisinage. Amazan voguait déjà sur la mer. Muni d'une carte géographique dont il lui avait fait présent le savant albionien qui s'était entretenu avec lui chez Milord Quimporte, et il voyait avec surprise une grande partie de la terre sur une feuille de papier. Ses yeux et son imagination s'égaraient dans ce petit espace. Il regardait le Rhin, le Danube, les Alpes du Tyrol, marqués alors par d'autres noms, et tous les pays d'où il venait passer avant d'arriver à la ville des Sept Montagnes. Mais surtout, il jetait les yeux sur la contrée des Gangarides, sur Babylone, où il avait vu sa chère princesse, et sur le fatal pays de Bassora, où elle avait donné un baiser au roi d'Égypte. Il soupirait, il versait des larmes. Mais il convenait que l'Albionien, qui lui avait fait présent de l'univers en raccourci, n'avait pas eu tort en disant qu'on était mille fois plus instruit sur les bords de la Tamise que sur ceux du Nil, de l'Euphrate et du Gange. Comme il retournait en Batavie, Formosante volait vers Albion avec ses deux vaisseaux qui cinglaient à pleine voile. Celui d'Amazon et celui de la princesse se croisèrent, se touchèrent presque. Les deux amants étaient près l'un de l'autre et ne pouvaient s'en douter. Ah, s'ils avaient su! Mais l'impérieuse destinée ne le permit pas. Sitôt qu'Amazan fut débarqué sur le terrain égal et fangeux de la Batavie, il partit comme un éclair pour la ville aux sept montagnes. Il fallut traverser la partie méridionale de la Germanie. De 4000 en 4000, on trouvait un prince et une princesse, des filles d'honneur et des gueux. Il était étonné des coquetteries que ces dames et ces filles d'honneur lui faisaient partout avec la bonne foi germanique, et il n'y répondait que par de modestes refus. Après avoir franchi les Alpes, il s'embarqua sur la mer de Dalmatie et aborda dans une ville qui ne ressemblait à rien du tout de ce qu'il avait vu jusqu'alors. La mer formait les rues, les maisons étaient bâties dans l'eau. Le peu de place publique qui ornait cette ville était couvert d'hommes et de femmes qui avaient un double visage, celui que la nature leur avait donné et une face de carton mal peint qu'ils appliquaient par-dessus, en sorte que la nation semblait composée de spectres. Les étrangers qui venaient dans cette contrée commençaient par acheter un visage, comme on se pourvoit ailleurs de bonnets et de souliers. Amazan dédaigna cette mode contre nature. Il se présenta tel qu'il était. Il y avait dans la ville 12 000 filles enregistrées dans le grand livre de la République. Filles utiles à l'État, chargées du commerce le plus avantageux et le plus agréable qui ait jamais enrichi une nation. Les négociants ordinaires envoyaient à grands frais et à grands risques des étoffes dans l'Orient. Ces belles négociantes faisaient sans aucun risque un trafic toujours renaissant de leurs attraits. Elles vinrent toutes se présenter au bel Amazon et lui offrir le choix. Oh, il s'enfuit au plus vite en prononçant le nom de l'incomparable princesse de Babylone et en jurant par les dieux immortels qu'elle était plus belle que toutes les 12 000 filles vénitiennes. « Sublime friponne !» s'écriait-il dans ses transports. « Je vous apprendrai à être fidèle. » Enfin, les ondes jaunes du Tibre, des marais empestés, des habitants haves, des charnés errards, couverts de vieux manteaux troués qui laissaient voir leur peau sèche et tannée, se présentèrent à ses yeux et lui annoncèrent qu'il était à la porte de la ville, aux sept montagnes, de cette ville de héros et de législateurs qui avait conquis et policé une grande partie du globe. Il s'était imaginé qu'il verrait à la porte triomphale 500 bataillons commandés par des héros et dans le Sénat une assemblée de demi-dieux donnant des lois à la terre. Il trouva, pour toute armée, une trentaine de gredins montant la garde avec un parasol de peur du soleil. Ayant pénétré jusqu'à un temple qui lui parut très beau, mais moins que celui de Babylone, il fut assez surpris d'y entendre une musique exécutée par des hommes qui avaient des voix de femmes. « Voilà, dit-il, un plaisant pays que cette antique terre de Saturne. J'ai vu une ville où personne n'avait son visage. En voici une autre où les hommes n'ont ni leur voix ni leur barbe. » On lui dit que ces chantres n'étaient plus hommes, qu'on les avait dépouillés de leur virilité afin qu'ils chantassent plus agréablement les louanges d'une prodigieuse quantité de gens de mérite. Amazon ne comprit rien à ce discours. Ces messieurs le prièrent de chanter. Il chanta un air gangaride avec sa grâce ordinaire. Sa voix était une très belle haute contre. « Ah, monseigneur, lui dirent-ils, quel charmant soprano vous auriez. Ah, si, enfin, comment si, que prétend-vous dire? Ah, monseigneur, eh bien, si vous n'aviez point de barbe. » Alors, ils lui expliquèrent très plaisamment et avec des gestes fort comiques, selon leur coutume, de quoi il était question. Amazon demeura tout confondu. « J'ai voyagé, dit-il, et jamais je n'ai entendu parler d'une telle fantaisie. » Lorsqu'on eut bien chanté, le vieux des sept montagnes alla en grand cortège à la porte du temple. Il coupa l'air en quatre avec le pouce élevé, deux doigts étendus et deux autres pliés, en disant ces mots dans une langue qu'on ne parlait plus. « À la ville et à l'univers !» Le gangaride ne pouvait comprendre que deux doigts puissent atteindre si loin. Il vit bientôt défiler toute la cour du maître du monde. Elle était composée de graves personnages, les uns en robe rouge, les autres en violet. Presque tous regardaient le bel Amazon en adoucissant les yeux. Ils lui faisaient des révérences et se disaient l'un à l'autre « San Martino, che bel ragazzo! San Pancratio, che bel fanciullo !» Les ardents dont le métier était de montrer aux étrangers les curiosités de la ville s'empressèrent de lui faire voir des masures où un muletier ne voudrait pas passer la nuit, mais qui avaient été autrefois de dignes monuments de la grandeur d'un peuple roi. Il vit encore des tableaux de 200 ans et des statues de plus de 20 siècles qui lui parurent des chefs-d'œuvre. « Faites-vous encore de pareils ouvrages ?»«
Oh non, votre excellence, lui répondit un des ardents, mais nous méprisons le reste de la terre, parce que nous conservons ses raretés. Nous sommes des espèces de fripiers qui tirons notre gloire des vieux habits qui restent dans nos magasins. »
Amazon voulut voir le palais du prince. On l'y conduisit. Il vit des hommes en violet qui comptaient l'argent des revenus de l'État, tant d'une terre située sur le Danube, tant d'une autre sur la Loire, ou sur le Guadalquivir, ou sur la Vistule.
« Oh, oh !» dit Amazon après avoir consulté sa carte de géographie. « Votre maître possède donc toute l'Europe comme ces anciens héros des sept montagnes ?»
« Il doit posséder l'univers entier le droit divin, lui répondit un violet.
Eh bien, il a été un temps où ses prédécesseurs ont approché de la monarchie universelle. Mais leur successeur a la bonté de se contenter aujourd'hui de quelque argent que les rois, leurs sujets, leur font payer en forme de tribut. Ah, votre maître est donc en effet le roi des rois. C'est donc là son titre, dit Amazone. Non, 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 votre excellence, son titre est serviteur des serviteurs. Il est originairement poissonnier, portier. Et c'est pourquoi les emblèmes de sa dignité sont des clés et des filets. Mais il donne toujours des ordres à tous les rois. Il n'y a pas longtemps qu'il envoya 101 commandements à un roi du pays des Celtes, et le roi obéit. Votre poissonnier, dit Amazone, envoya donc 500 ou 600 000 hommes pour faire exécuter ses 101 volontés. Pas du tout, votre excellence. Notre saint maître n'est point assez riche pour soudoyer 10 000 soldats. Et il a 85 000 prophètes divins distribués dans les autres pays. Ces prophètes de toutes couleurs sont comme de raison nourris aux dépens des peuples. Ils annoncent de la part du ciel que mon maître peut, avec ses clés, ouvrir et fermer toutes les serrures, et surtout celles des coffres-forts. Un prêtre normand, qui avait auprès du roi dont je vous parle la charge de confident de ses pensées, le convainquit qu'il devait obéir sans réplique aux 101 pensées de mon maître. Car il faut que vous sachiez qu'une des prérogatives du vieux des 7 montagnes est d'avoir toujours raison, soit qu'il daigne parler ou qu'il daigne écrire. Parbleu, dit Amazon, voilà un singulier homme, je serais curieux de dîner avec lui. Ah, votre excellence, quand vous seriez roi, vous ne pourriez manger à sa table. Tout ce qu'il pourrait faire pour vous, ce serait de vous en faire servir une à côté de lui, plus petite et plus basse que la sienne. Mais si vous voulez avoir l'honneur de lui parler, je lui demanderai audience pour vous, moyennant la buonamantia que vous aurez la bonté de me donner. Très volontiers, dit le grand Garide. Le violet s'inclina. Je vous introduirai demain, dit-il. Vous ferez 3 génuflexions et vous baiserez les pieds du vieux des 7 montagnes. À ces mots, Amazone fit de si prodigieux éclats de rire qu'il fut près de suffoquer. Il sortit en se tenant les côtes et rit aux larmes pendant tout le chemin jusqu'à ce qu'il fût arrivé à son hôtellerie où il rit encore très longtemps. À son dîner, il se présenta 20 hommes sans barbe et 20 violons qui lui donnèrent un concert. Il fut courtisé le reste de la journée par les seigneurs les plus importants de la ville. Ils lui firent des propositions encore plus étranges que celle de baiser les pieds du vieux des 7 montagnes. Comme il était extrêmement poli, il crut d'abord que ces messieurs le prenaient pour une dame et les avertit de leur méprise avec l'honnêteté la plus circonspecte. Mais étant pressé un peu vivement par 2 ou 3 des plus déterminés violets, il les jeta par les fenêtres sans croire faire un grand sacrifice à la belle Formosante. Il quitta au plus vite cette ville des maîtres du monde, où il fallait baiser un vieillard à l'orteil, comme si sa joue était à son pied, et où l'on abordait les jeunes gens qu'avec des cérémonies encore plus bizarres. De province en province, ayant toujours repoussé les agaceries de toute espèce, toujours fidèle à la princesse de Babylone, toujours en colère contre le roi d'Égypte, ce modèle de constance parvint à la capitale nouvelle des Gaules. Cette ville avait passé, comme tant d'autres, par tous les degrés de la barbarie, de l'ignorance, de la sottise et de la misère. Son premier nom avait été la boue et la crotte. Ensuite, elle avait pris celui d'Isis, du culte d'Isis parvenu jusque chez elle.
Son premier sénat avait été une compagnie de bateliers. Elle avait été longtemps esclave des héros des prédateurs des sept montagnes. Et après quelques siècles, d'autres héros brigands venus de la rive ultérieure du Rhin s'étaient emparés de son petit terrain. Le temps, qui change tout, en avait fait une ville dont la moitié était très noble et très agréable, l'autre un peu grossière et ridicule. C'était l'emblème de ses habitants. Il y avait dans son enceinte environ 100 000 personnes au moins qui n'avaient rien à faire qu'à jouer et à se divertir. Ce peuple d'oisifs jugeait des arts que les autres cultivaient. Il ne savait rien de ce qui se passait à la cour. Quoiqu'elle ne fût qu'à 4 petites milles d'eux, il semblait qu'elle en fût à 600 000 au moins. La douceur de la société, la gaieté, la frivolité étaient leur importante et leur unique affaire. On les gouvernait comme des enfants qui ont prodigué des jouets pour les empêcher de crier. Si on leur parlait des horreurs qui avaient 2 siècles auparavant désolé leur patrie et des temps épouvantables où la moitié de la nation avait massacré l'autre pour des sophismes, ils disaient qu'en effet, cela n'était pas bien, et puis ils se mettaient à rire et à chanter des vaudevilles. Plus les oisifs étaient polis, plaisants et aimables, plus on observait un triste contraste entre eux et des compagnies d'occupés. Il était parmi ces occupés, ou qui prétendaient l'être, une troupe de sombres fanatiques, moitié absurdes, moitié fripons, dont le seul aspect contristait la terre, et qui l'aurait bouleversé s'il n'avait pu pour se donner un peu de crédit. Mais la nation des oisifs, en dansant et en chantant, les faisait rentrer dans leurs cavernes comme les oiseaux obligent les chats-huants à se replonger dans les trous des masures. D'autres occupés en plus petit nombre étaient les conservateurs d'anciens usages barbares contre lesquels la nature effrayée réclamait à haute voix. Ils ne consultaient que leur registre rongé des vers. S'ils y voyaient une coutume insensée et horrible, ils la regardaient comme une loi sacrée. C'est par cette lâche habitude de n'oser penser par eux-mêmes et de puiser leurs idées dans les débris des temps où l'on ne pensait pas que dans la ville des plaisirs, il était encore des mœurs atroces. C'est par cette raison qu'il n'y avait nulle proportion entre les délits et les peines. On faisait quelquefois souffrir 1000 morts à un innocent pour lui faire avouer un crime qu'il n'avait pas commis. On punissait une étourderie de jeune homme comme on aurait puni un empoisonnement ou un parricide. Les oisifs en poussaient les cris perçants, et le lendemain, ils n'y pensaient plus et ne parlaient que de modes nouvelles. Ce peuple avait vu s'écouler 1 siècle entier, pendant lequel les beaux-arts s'élevèrent à un degré de perfection qu'on n'aurait jamais osé espérer. Des étrangers venaient alors, comme à Babylone, admirer les grands monuments d'architecture, les prodiges des jardins, les sublimes efforts de la sculpture et de la peinture. Ils étaient enchantés d'une musique qui allait à l'âme, sans étonner les oreilles. La vraie poésie, c'est-à-dire celle qui est naturelle et harmonieuse, celle qui parle au cœur autant qu'à l'esprit, ne fut connue de la nation que dans cet heureux siècle. De nouveaux genres d'éloquence se déployèrent des beautés sublimes. Les théâtres surtout retentirent de chefs-d'œuvre dont aucun peuple n'approcha jamais. Enfin, le bon goût se répandit dans toutes les professions, au point qu'il y eut de bons écrivains, même chez les druides. Tant de lauriers, qui avaient levé leur tête jusqu'aux nues, se séchèrent bientôt dans une terre épuisée. Il n'en resta qu'un très petit nombre, dont les feuilles étaient d'un vert pâle et mourant. La décadence fut produite par la facilité de faire et par la paresse de bien faire, par la satiété du beau et par le goût du bizarre. La vanité protégea des artistes qui ramenait les temps de la barbarie. Et cette même vanité, en persécutant les talents véritables, les força de quitter leur patrie. Les frelons firent disparaître les abeilles. presque plus de véritables arts, presque plus de génie. Le mérite consistait à raisonner à tort et à travers sur le mérite du siècle passé. Le barbouilleur des murs d'un cabaret critiquait savamment les tableaux des grands peintres. Les barbouilleurs de papier défiguraient les ouvrages des grands écrivains. L'ignorance et le mauvais goût avaient d'autres grands écrivains, d'autres bafouilleurs à leur gage. On répétait les mêmes choses dans 100 volumes sous des titres différents. Tout était ou dictionnaire ou brochure. Un gazetier druide écrivait deux fois par semaine les annales obscures de quelques énergumènes ignorés de la nation, et le prodige céleste opéré dans des galetas par de petits gueux et de petites gueuses. D'autres ex-druides, vêtus de noir, près de mourir de colère et de faim, se plaignaient dans 100 écrits qu'on ne leur permit plus de tromper les hommes et qu'on laissa ce droit à des boucs vêtus de gris. Quelques archidruides imprimaient des libelles diffamatoires. Amazon ne savait rien de tout cela, et quand il l'aurait su, il ne s'en serait guère embarrassé, n'ayant la tête remplie que de la princesse de Babylone, du roi de l'Égypte et de son serment inviolable, de mépriser toutes les coquetteries des dames dans quelque pays que le chagrin conduisit ses pas. Toute la populace, légère, ignorante et toujours poussant à l'excès, cette curiosité naturelle au genre humain, s'empressa longtemps autour de ces licornes. Les femmes, plus sensées, forcèrent les portes de son hôtel pour contempler sa personne. Il témoigna d'abord à son hôte quelques désirs d'aller à la cour. Mais des oisifs de bonne compagnie qui se trouvèrent là par hasard lui dirent que ce n'était plus la mode, que les temps étaient bien changés et qu'il n'y avait plus de plaisir qu'à la ville. Il fut invité le soir même à souper par une dame dont l'esprit et les talents étaient connus hors de sa patrie et qui avait voyagé dans quelques pays où Amazon avait passé. Il goûta fort cette dame et la société rassemblée chez elle. La liberté y était décente, la gaieté n'y était point trop bruyante, et la science n'y avait rien de rebutant, et l'esprit rien d'apprêté. Il vit que le nom de bonne compagnie n'est pas un vain nom, quoiqu'il soit souvent usurpé. Le lendemain, il dîna dans une société non moins aimable, mais beaucoup plus voluptueuse. Plus il fut satisfait des convives, plus on fut content de lui. Il sentait son âme s'amollir et se dissoudre, comme les aromates de son pays se fondent doucement à un feu modéré et s'exhalent en parfums délicieux. Après le dîner, on le mena à un spectacle enchanteur, condamné par les druides parce qu'il leur enlevait les auditeurs dont ils étaient les plus jaloux. Ce spectacle était un composé de vers agréables, de chants délicieux, de danses qui exprimaient les mouvements de l'âme et de perspectives qui charmaient les yeux en les trompant. Ce genre de plaisir qui rassemblait tant de genres n'était connu que sous un nom étranger. Il s'appelait « opéra », ce qui signifiait autrefois dans la langue des sept montagnes travail, soins, occupation, industrie, entreprise, besogne, affaire. Cette affaire l'enchanta. Une fille surtout le charma par sa voix mélodieuse et par les grâces qui l'accompagnaient. Cette fille d'affaire, après le spectacle, lui fut présentée par ses nouveaux amis. Il lui fit présent d'une poignée de diamants. Elle en fut si reconnaissante qu'elle ne put le quitter du reste du jour. Il soupa avec elle et pendant le repas, il oublia sa sobriété. Et après le repas, il oublia son serment d'être toujours insensible à la beauté et inexorable aux tendres coquetteries. Quel exemple de la faiblesse humaine !
La belle princesse de Babylone arrivait alors avec le phénix, sa femme de chambre Lyria, et ses 200 cavaliers gangarides montés sur leur licorne. Il fallut attendre assez longtemps pour qu'on ouvrît les portes. Elle demanda d'abord si le plus beau des hommes, le plus courageux, le plus spirituel et le plus fidèle était encore dans cette ville. Les magistrats virent bien qu'elle voulait parler d'Amazon. Elle se fit conduire à son hôtel. Elle entra, le cœur palpitant d'amour. Toute son âme était pénétrée de l'inexprimable joie de revoir enfin dans son amant le modèle de la constance. Rien ne put l'empêcher d'entrer dans sa chambre. Les rideaux étaient ouverts. Elle vit le bel Amazon dormant entre les bras d'une jolie brune. Ils avaient tous deux un très grand besoin de repos. Formosante jeta un cri de douleur qui retentit dans toute la maison, mais qui ne put éveiller ni son cousin ni la fille d'affaires. Elle tomba pâmée entre les bras d'Iria. Dès qu'elle eut repris ses sens, elle sortit de cette chambre fatale avec une douleur mêlée de rage. Iria s'informa quelle était cette jeune demoiselle qui passait des heures si douces avec le bel Amazon. On lui dit que c'était une fille d'affaires fort complaisante qui joignait à ses talents celui de chanter avec assez de grâce. Oh, juste ciel, ô puissante Rosman! S'écriait la belle princesse de Babylone tout en pleurs. Par qui suis-je trahie? Et pour qui? Ainsi donc, celui qui a refusé pour moi tant de princesses m'abandonne pour une farceuse des Gaules. Oh non, je ne pourrais survivre à cet affront. Madame, lui dit Iria, pourquoi, voilà, comme sont faits tous les jeunes gens. D'un bout du monde à l'autre. Fût-il amoureux d'une beauté descendue du ciel, il lui ferait, dans de certains moments, des infidélités pour une servante de cabaret. Ah, c'en est fait, dit la princesse. Je ne le reverrai jamais de ma vie. Partons dans l'instant même, et qu'on attelle mes licornes. Le phénix la conjura d'attendre au moins qu'Amazon fût éveillé et qu'il pût lui en parler. Il ne le mérite pas, dit la princesse. Vous m'offenseriez cruellement. Il croirait que je vous ai prié de lui faire des reproches et que je veux me raccommoder avec lui. Alors, si vous m'aimez, n'ajoutez pas cette injure à l'injure qu'il m'a faite. Le phénix, qui, après tout, devait la vie à la fille du roi de Babylone, ne put lui désobéir. Elle repartit avec tout son monde. Où allons-nous, madame? Lui demandait Iria. Je n'en sais rien, répondait la princesse. Nous prendrons le premier chemin que nous trouverons. Pourvu que je fuie Amazon pour jamais, je suis contente. Le phénix, qui était plus sage que Formosante, parce qu'il était sans passion, la consolait en chemin. Il lui remontrait avec douceur qu'il était triste de se punir pour les fautes d'un autre, qu'Amazon lui avait donné des preuves assez éclatantes et assez nombreuses de fidélité pour qu'elle pût lui pardonner de s'être oubliée un moment, que c'était injuste à qui la grâce de l'Osman avait manqué, qu'il n'en serait que plus constant désormais dans l'amour et dans la vertu, que le désir d'expier sa faute le mettrait au-dessus de lui-même, qu'elle n'en serait que plus heureuse, que plusieurs grandes princesses avant elle avaient pardonné de semblables écarts et s'en étaient bien trouvées. Il lui en rapportait des exemples, et il possédait tellement l'art de conter que le cœur de Formosante fut enfin plus calme et plus paisible. Elle aurait voulu n'être point si tôt partie. Elle trouvait que ses licornes allaient trop vite, mais elle n'osait revenir sur ses pas.
combattu entre l'envie de pardonner et celle de montrer sa colère, entre son amour et sa vanité, elle laissait aller ses licornes. Elle courait le monde selon la prédiction de l'oracle de son père. Amazan, à son réveil, apprend l'arrivée et le départ de Formesante et du Phénix. Il apprend le désespoir et le courroux de la princesse. On lui dit qu'elle a juré de ne lui pardonner jamais. « Oh, il ne me reste plus, s'écria-t-il, qu'à la suivre et à me tuer à ses pieds. » Ses amis de la bonne compagnie des oisifs accoururent au bruit de cette aventure. Tous lui remontrèrent qu'il valait infiniment mieux demeurer avec eux, que rien n'était comparable à la douce vie qu'il menait dans le sein des arts et d'une volupté tranquille et délicate, que plusieurs étrangers et des rois même avaient préféré ce repos, si agréablement occupé et si enchanteur à leur patrie et à leur trône, que d'ailleurs sa voiture était brisée, et qu'un sellier lui en faisait une à la nouvelle mode, que le meilleur tailleur de la ville lui avait déjà coupé une douzaine d'habits du dernier goût, que les dames les plus spirituelles et les plus aimables de la ville, chez qui on jouait très bien la comédie, avaient retenu chacune leur jour pour lui donner des fêtes. La fille d'affaires, pendant ce temps-là, prenait son chocolat à sa toilette, riait, chantait et faisait des agaceries au bel Amazan, qui s'aperçut enfin qu'elle n'avait pas le sens d'un oison. Comme la sincérité, la cordialité, la franchise, ainsi que la magnanimité et le courage composaient le caractère de ce grand prince, il avait conté ses malheurs et ses voyages à ses amis. Ils savaient qu'il était cousin issu de Germain de la princesse. Ils étaient informés du baiser funeste donné par elle au roi d'Égypte. « Oh, se pardonne, lui dirent-ils, ces petites frasques entre parents, sans quoi il faudrait passer sa vie dans d'éternelles querelles. » Non, rien n'ébranla son dessein de courir après Formosante. Sa voiture n'était pas prête, alors il fut obligé de passer 3 jours parmi les oisifs, dans les fêtes et dans les plaisirs. Enfin, il prit congé d'eux en les embrassant, en leur faisant accepter les diamants de son pays les mieux montés, en leur recommandant d'être toujours légers et frivoles, puisqu'il n'en était que plus aimable et plus heureux. « Les Germains, disait-il, sont les vieillards de l'Europe. Les peuples d'Albion sont les hommes faits, et les habitants de la Gaule sont les enfants, et j'aime à jouer avec eux. » Ses guides n'eurent pas de peine à suivre la route de la princesse. On ne parlait que d'elle et de son gros oiseau. Tous les habitants étaient encore dans l'enthousiasme de l'admiration. Les peuples de la Dalmatie et de la Marche d'Ancône éprouvèrent depuis une surprise moins délicieuse quand ils virent une maison voler dans les airs. Les bords de la Loire, de la Dordogne et de la Garonne, de la Gironde, retentissaient encore d'acclamations. Quand Amazan fut au pied des Pyrénées, les magistrats et les druides du pays lui firent danser malgré lui un tambourin. Mais sitôt qu'il eut franchi les Pyrénées, il ne vit plus de gaieté et de joie. S'il entendit quelques chansons de loin à loin, elles étaient toutes sur un ton triste. Les habitants marchaient gravement avec des grains enfilés et un poignard à leur ceinture. La nation, vêtue de noir, semblait être en deuil. Si les domestiques d'Amazan interrogeaient les passants, ceux-ci répondaient par signes. Si on entrait dans une hôtellerie, le maître de la maison enseignait aux gens en 3 paroles qu'il n'y avait rien dans la maison, et qu'on pouvait envoyer chercher à quelques milles les choses dont on avait un besoin pressant. Quand on demandait à ces silencières s'ils avaient vu passer la belle princesse de Babylone. Ils répondaient avec moins de brièveté, oh, « Nous l'avons vue, elle n'est pas si belle. Il n'y a de beau que l'étain basané. Elle étale une gorge d'albâtre qui est la chose du monde la plus dégoûtante et qu'on ne connaît presque point dans nos climats. » Amazone avançait vers la province arrosée du Bétis. Il ne s'était pas écoulé plus de 12 000 années depuis que ce pays avait été découvert par les Tyriens, vers le même temps qu'ils firent la découverte de la grande île atlantique, submergée quelques siècles après. Les Tyriens cultivèrent la bétique que les naturels du pays laissaient en friche, prétendant qu'ils ne devaient se mêler de rien et que c'était aux Gaulois, leurs voisins, à venir cultiver leurs terres. Les Tyriens avaient amené avec eux des Palestins qui, dès ce temps-là, couraient dans tous les climats pour peu qu'il y eût de l'argent à gagner. Ces Palestins, en prêtant sur gage à 50%, avaient attiré à eux presque toutes les richesses du pays. Cela fit croire au peuple de la Bétique que les Palestins étaient sorciers, et tous ceux qui étaient accusés de magie étaient brûlés sans miséricorde par une compagnie de druides qu'on appelait les rechercheurs ou les anthropocales. Ces prêtres les revêtaient d'abord d'un habit de masque, s'emparaient de leurs biens et récitaient dévotement les propres prières des Palestins, tandis qu'on les cuisait à petit feu « por la mort de Dios ». La princesse de Babylone avait mis pied à terre dans la ville qu'on appela depuis Séville. Son dessein était de s'embarquer sur le Bétis pour retourner par Tyr à Babylone, revoir le roi Vélus, son père, et oublier, si elle pouvait, son infidèle amant ou bien le demander en mariage. Elle fit venir chez elle deux Palestins qui faisait toutes les affaires de la cour. Il devait lui fournir 3 vaisseaux. Le phénix fit avec eux tous les arrangements nécessaires et convint du prix après avoir un peu disputé. L'hôtesse était fort dévote et son mari, non moins dévot, était familier, enfin, c'est-à-dire espion des druides, rechercheur anthropocal. Il ne manqua pas de les avertir qu'il avait dans sa maison une sorcière et 2 Palestins qui faisaient un pacte avec le diable déguisé en gros oiseaux dorés. Les rechercheurs, apprenant que la dame avait une prodigieuse quantité de diamants, la jugèrent incontinent sorcière. Ils attendirent la nuit pour enfermer les 200 cavaliers et les licornes qui dormaient dans de vastes écuries. Car les rechercheurs sont poltrons. Après avoir bien barricadé les portes, ils se saisirent de la princesse et d'Iria. Mais ils ne purent prendre le phénix qui s'envola à tire-d'aile. Ils se doutaient bien qu'ils trouveraient Amazan sur le chemin des Gaules à Séville. Il le rencontra sur la frontière de la Bétique et lui apprit le désastre de la princesse. Amazan ne put parler, il était trop saisi, trop en fureur. Il s'arme d'une cuirasse d'acier damasquiné d'or, d'une lance de 12 pieds, de 2 javelots et d'une épée tranchante appelée la fulminante, qui pouvait fendre d'un seul coup des arbres, des rochers et des druides. Il couvre sa belle tête d'un casque d'or ombragé de plumes de héron et d'autruche. C'était l'ancienne armure de Magog, dont sa sœur Eldé lui avait fait présent dans son voyage en Scythie. Le peu de suivants qui l'accompagnaient montent comme lui, chacun sur sa licorne. Amazan, en embrassant son cher phénix, ne lui dit que ses tristes paroles. « Je suis coupable. Si je n'avais pas couché avec une fille d'affaires dans la ville des Oisifs, la belle princesse de Babylone ne serait pas dans cet état épouvantable. courons aux anthropocales. » Il entre bientôt dans Séville. 1500 alguazils gardent les portes de l'enclos où les 200 gangarides et leurs licornes étaient renfermés sans avoir à manger. Tout était préparé pour le sacrifice qu'on allait faire de la princesse de Babylone, de sa femme de chambre Iria et des deux riches Palestins. Le grand anthropocale, entouré de ses petits anthropocales, était déjà sur son tribunal sacré. Une foule de sévillois portait des grains enfilés à leur ceinture, joignait les deux mains sans dire un mot, et l'on amenait la belle princesse, Iria et les deux Palestins, les mains liées derrière le dos et vêtus d'un habit de masque. Le phénix entra par une lucarne dans la prison où les gangarides commençaient déjà à enfoncer les portes. L'invincible Amazon les brisait en dehors. Ils sortent tout armés, tous sur leur licorne. Amazon se met à leur tête. Il n'eut pas de peine à renverser les alguazils, les familiers, les prêtres anthropocailles. Chaque licorne en perçait des douzaines à la fois. La fulminante d'Amazon coupait en deux tout ce qu'il rencontrait. Le peuple fuyait en manteau noir et en fraise sale, toujours tenant à la main ses grains bénis pour l'amor de Dios. Amazon saisit de sa main le grand rechercheur sur son tribunal et le jette sur le bûcher qui était préparé à 40 pas. Il y jeta aussi les autres petits rechercheurs l'un après l'autre. Ils se prosternent ensuite aux pieds de Formosante. « Oh, que vous êtes aimable, dit-elle, et que je vous adorerais si vous ne m'aviez pas fait une infidélité avec une fille d'affaires. » Tandis qu'Amazon faisait sa paix avec la princesse, tandis que ses gangarides entassaient dans le bûcher les corps de tous les anthropocailles et que les flammes s'élevaient jusqu'aux nues, Amazon vit de loin comme une armée qui venait à lui. Un vieux monarque, la couronne en tête, s'avançait sur un char traîné par 8 mules attelées avec des cordes. 100 autres chars suivaient, et ils étaient accompagnés de graves personnages en manteau noir et en fraises, montés sur de très beaux chevaux. Une multitude de gens à pied suivait en cheveux gras et en silence. D'abord, Amazon fit ranger autour de lui ses gangarides et s'avança, la lance en arrêt. Dès que le roi l'aperçut, il ôta sa couronne, descendit de son char, embrassa l'étrier d'Amazon et lui dit « Homme envoyé de Dieu, vous êtes le vengeur du genre humain, le libérateur de ma patrie, mon protecteur. Ces monstres sacrés dont vous avez purgé la terre étaient mes maîtres au nom du vieux des 7 montagnes. J'étais forcé de souffrir leur puissance criminelle. Mon peuple m'aurait abandonné si j'avais voulu seulement modérer leurs abominables atrocités. D'aujourd'hui, je respire, je règne, et je vous le dois. » Ensuite, il baisa respectueusement la main de Formosante et la supplia de vouloir bien monter avec Amazon, Iria et le phénix dans son carrosse à 8 mules. Les deux Palestins, banquiers de la cour, encore prosternés à terre de frayeur et de reconnaissance, se relevèrent et la troupe de licornes suivit le roi de la Bétique dans son palais. Comme la dignité du roi d'un peuple grave exigeait que ses mules allassent au petit pas, Amazon et Formosante eurent le temps de lui conter leurs aventures. Il entretint aussi le phénix. Il l'admira et le baisa 100 fois. Il comprit combien les peuples d'Occident, qui mangeaient les animaux et qui n'entendaient plus leur langage, étaient ignorants, brutaux et barbares. Que les seuls gangarides avaient conservé la nature et la dignité primitive de l'homme. Mais il convenait surtout que les plus barbares des mortels étaient ces rechercheurs anthropocaï dont Amazan venait de purger le monde. Il ne cessait de le bénir et de le remercier. La belle Formosan oubliait déjà l'aventure de la fille d'affaires et n'avait l'âme remplie que de la valeur du héros qui lui avait sauvé la vie. Amazan, instruit de l'innocence du baiser donné au roi d'Égypte et de la résurrection du phénix, goûtait une joie pure et était enivré du plus violent amour. On dîna au palais et on y fit assez mauvaise chère. Les cuisiniers de la Bétique étaient les plus mauvais de l'Europe. Amazan conseilla d'en faire venir des Gaules. Les musiciens du roi exécutèrent pendant le repas cet air célèbre qu'on appela dans la suite des siècles les Folies d'Espagne. Après le repas, on parla d'affaires. Le roi demanda au bel Amazan, à la belle Formosante et au beau Phénix ce qu'il prétendait devenir. Pour moi, dit Amazan, mon intention est de retourner à Babylone, dont je suis l'héritier présomptif, et de demander à mon oncle Bélus, ma cousine issue de Germaine, l'incomparable Formosante, à moins qu'elle n'aime mieux vivre avec moi chez les Gangarides. Mon dessein, dit la princesse, est assurément de ne jamais me séparer de mon cousin issu de Germain, mais je crois qu'il convient que je me rende auprès du roi mon père, d'autant plus qu'il ne m'a donné permission que d'aller en pèlerinage à Bassora et que j'ai couru le monde. « Pour moi, dit le phénix, je suivrai partout ces deux tendres et généreux amants. »« Vous avez raison, dit le roi de la Bétique, mais le retour à Babylone n'est pas si aisé que vous le pensez. Je sais tous les jours des nouvelles de ce pays-là par les vaisseaux tyriens et par mes banquiers palestins qui sont en correspondance avec tous les peuples de la terre. Tout est en armes vers l'Euphrate et le Nil. Le roi de Siti redemande l'héritage de sa femme à la tête de 300 000 guerriers tous à cheval. Le roi d'Égypte et le roi des Indes désolent aussi les bords du Tigre et de l'Euphrate, chacun à la tête de 300 000 hommes pour se venger de ce qu'on s'est moqué d'eux. Et pendant que le roi d'Égypte est hors de son pays, son ennemi, le roi d'Éthiopie, ravage l'Égypte avec 300 000 hommes et le roi de Babylone n'a encore que 600 000 hommes sur pied pour se défendre. Je vous avoue, continue là le roi, que lorsque j'entends parler de ces prodigieuses armées que l'Orient vomit de son sein et de leur étonnante magnificence, quand je les compare à nos petits corps de 20 à 30 000 soldats, qu'il est si difficile de vêtir et de nourrir, je suis tenté de croire que l'Orient a été fait bien longtemps avant l'Occident. Il semble que nous soyons sortis avant-hier du chaos et hier de la barbarie. Sire, dit Amazan, les derniers venus l'emportent quelquefois sur ceux qui sont entrés les premiers dans la carrière. On pense dans mon pays que l'homme est originaire de l'Inde, mais je n'en ai aucune certitude. Et vous, dit le roi de la Bétique au phénix, qu'en pensez-vous? Oh, sire, répondit le phénix, je suis encore trop jeune pour être instruit de l'Antiquité. Je n'ai vécu qu'environ 27 000 ans, mais mon père, qui avait vécu 5 fois cet âge, me disait qu'il avait appris de son père que les contrées de l'Orient avaient toujours été plus propices, plus peuplées et plus riches que les autres. Il tenait de ses ancêtres que les générations de tous les animaux avaient commencé sur les bords du Gange.
Pour moi, je n'ai pas la vanité d'être de cette opinion. Je ne puis croire que les renards d'Albion, les marmottes des Alpes et les loups de la Gaule viennent de mon pays. De même que je ne crois pas que les sapins et les chênes de vos contrées descendent des palmiers et des cocotiers des Indes. Mais d'où venons-nous donc? Dit le roi. J'en sais rien, dit le phénix. Je voudrais seulement savoir où la belle princesse de Babylone et mon cher ami Amazon pourront aller. Oh, je doute fort, repartit le roi, qu'avec ces 200 licornes, ils soient en état de percer à travers tant d'armées de 300 000 hommes chacune. Pourquoi non? Dit Amazon. Le roi de la Bétique sentit le sublime du pourquoi non. Mais il crut que le sublime seul ne suffisait pas contre des armées innombrables. Oh, je vous conseille, dit-il, d'aller trouver le roi d'Éthiopie. Je suis en relation avec ce prince noir par le moyen de mes palestins. Je vous donnerai des lettres pour lui. Puisqu'il est l'ennemi du roi d'Égypte, il sera trop heureux d'être fortifié par votre alliance. Je puis vous aider de 2 000 hommes, très sobres et très braves. Il ne tiendra qu'à vous d'en engager autant chez les peuples qui demeurent, ou plutôt qui sautent au pied des Pyrénées, et qu'on appelle Basque ou Vascon. Envoyez un de vos guerriers sur une licorne avec quelques diamants. Il n'y a point de Vascon qui ne quitte le castel, c'est-à-dire la chaumière de son père, pour vous servir. Ils sont infatigables, courageux et plaisants. Vous en serez très satisfaits. En attendant qu'il soit arrivé, nous vous donnerons des fêtes et nous vous préparerons des vaisseaux. Je ne puis trop reconnaître le service que vous m'avez rendu. Amazon jouissait du bonheur d'avoir retrouvé Formosante et de goûter en paix dans sa conversation tous les charmes de l'amour réconcilié qui avaient presque ceux de l'amour naissant. Bientôt, une troupe fière et joyeuse de Vascons arriva en dansant un tambourin. L'autre troupe fière et sérieuse de Béticois était prête. Le vieux roi tanné embrassa tendrement les deux amants. Il fit charger leur vaisseau d'armes, de lits, de jeux d'échecs, d'habits noirs, de godelilles, d'oignons, de moutons, de poules, de farine et de beaucoup d'ail, en leur souhaitant une heureuse traversée, un amour constant et des victoires. La flotte aborda le rivage où l'on dit que tant de siècles après, la phénicienne Didon, sœur d'un Pygmalion, épouse d'un Siché, ayant quitté cette ville de Tyr, vint fonder la superbe ville de Carthage, en coupant un cuir de bœuf en lanière, selon le témoignage des plus graves auteurs de l'Antiquité, lesquels n'ont jamais conté de fables, et selon les professeurs qui ont écrit pour les petits garçons. Quoique, après tout, il n'y ait jamais eu personne à Tyr qui se soit appelé Pygmalion, ou Didon, ou Siché, qui sont des noms entièrement grecs, et quoiqu'enfin il n'y eut point de roi à Tyr en ces temps-là. La superbe Carthage n'était point encore un port de mer. Il n'y avait là que quelques numides qui faisaient sécher les poissons au soleil. On côtoya la Byzacène et les Syrtes, les bords fertiles où furent depuis Cyrène et la grande Chersonèse. Enfin, on arriva vers la première embouchure du fleuve sacré du Nil. C'est à l'extrémité de cette terre fertile que le port de Canope recevait déjà les vaisseaux de toutes les nations commerçantes, sans qu'on sût si le dieu Canope avait fondé le port ou si les habitants avaient fabriqué le dieu, ni si l'étoile Canope avait donné son nom à la ville ou si la ville avait donné le sien à l'étoile. Tout ce qu'on en savait, c'est que la ville et l'étoile étaient fort anciennes et
C'est tout ce qu'on peut savoir de l'origine des choses, de quelque nature qu'elles puissent être. Ce fut là que le roi d'Éthiopie, ayant ravagé toute l'Égypte, vit débarquer l'invincible Amazone et l'adorable Formosante. Il prit l'un pour le dieu des combats et l'autre pour la déesse de la beauté. Amazone lui présenta la lettre de recommandation d'Espagne. Le roi d'Éthiopie donna d'abord des fêtes admirables, suivant la coutume indispensable des temps héroïques. Ensuite, on parla d'aller exterminer les 300 000 hommes du roi d'Égypte, les 300 000 de l'empereur des Indes et les 300 000 du grand khan des Scythes qui assiégeait l'immense, l'orgueilleuse, la voluptueuse ville de Babylone. Les 2000 Espagnols qu'Amazan avait amenés avec lui dirent qu'il avait que faire du roi d'Éthiopie pour secourir Babylone, que c'était assez que le roi leur eût ordonné d'aller la délivrer, et qu'il suffisait d'eux pour cette expédition. Les Vascons dirent qu'ils en avaient bien fait d'autres, qu'ils battraient tout seuls les Égyptiens, les Indiens et les Scythes, et qu'ils ne voulaient marcher avec les Espagnols qu'à condition que ceux-ci seraient à l'arrière-garde. Les 200 gangarides se mirent à rire des prétentions de leurs alliés, et ils soutinrent qu'avec 100 licornes seulement, ils feraient fuir tous les rois de la terre. La belle Formosante les apaisa par sa prudence et par ses discours enchanteurs. Amazone présenta au monarque noir ses gangarides, ses licornes, les Espagnols, les Vascons et son bel oiseau. Tout fut prêt bientôt pour marcher par Memphis, par Héliopolis, par Arsinoé, par Petra, par Artémite, par Sora, par Apamée, pour aller attaquer les trois rois et pour faire cette guerre mémorable devant laquelle toutes les guerres que les hommes ont fait depuis n'ont été que des combats de coqs et de cailles. Chacun sait comment le roi d'Éthiopie devint amoureux de la belle Formosante et comment il la surprit au lit lorsqu'un doux sommeil fermait ses longues paupières. On se souvient qu'Amazone, témoin de ce spectacle, crut voir le jour et la nuit couchant ensemble. On n'ignore pas qu'Amazone, indigné de l'affront, tira soudain sa fulminante, qu'il coupa la tête perverse du nègre insolent et qu'il chassa tous les Éthiopiens d'Égypte. Ces prodiges ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques d'Égypte? La renommée a publié de ses 100 bouches les victoires qu'il remporta sur les trois rois avec ses Espagnols, ses Vascons et ses licornes. Il rendit la belle Formosante à son père. Il délivra toute la suite de sa maîtresse que le roi d'Égypte avait réduite en esclavage. Le grand khan des Scythes se déclara son vassal et son mariage avec la princesse Aldée fut confirmé. L'invincible et généreuse Amazone, reconnue pour héritier du royaume de Babylone, entra dans la ville en triomphe avec le phénix, en présence de 100 rois tributaires. La fête de son mariage surpassa en tout celle que le roi Bélus avait donnée. On servit à table le bœuf Apis rôti. Le roi d'Égypte et celui des Indes donnèrent à boire aux deux époux, et ses noces furent célébrées par 500 grands poètes de Babylone. Ô muse, qu'on invoque toujours au commencement de son ouvrage, je ne vous implore qu'à la fin. C'est en vain qu'on me reproche de dire grâce sans avoir dit bénédicté. Muse, vous n'en serez pas moins âme protectrice. Empêchez que des continuateurs téméraires ne gâtent par leurs fables les vérités que j'ai enseignées aux mortels dans ce fidèle récit ainsi qu'ils ont osé falsifier Candide, l'ingénue et les chastes aventures de la chaste Chane. Qu'un ex-capucin a défiguré par des vers dignes des capucins dans des émissions bataves. Qu'il ne fasse pas ce tort à mon typographe, chargé d'une nombreuse famille et qui possède à peine de quoi avoir des caractères, du papier et de l'encre. Ô muse, imposez silence au détestable Cogère, professeur de bavarderie au collège Mazarin, qui n'a pas été content des discours moraux de Bélisaire et de l'empereur Justinien, et qui a écrit de vilains libelles diffamatoires contre ces deux grands hommes. Mettez un baillon au pédant Larcher, qui, sans savoir un mot de l'ancien babylonien, sans avoir voyagé comme moi sur les bords de l'Euphrate et du Tigre, a eu l'imprudence de soutenir que la belle Formosante, fille du plus grand roi du monde, et la princesse Aldée et toutes les femmes de cette respectable cour allaient coucher avec tous les palefreniers de l'Asie pour de l'argent dans le grand temple de Babylone par principe de religion. Ce libertin de collège, votre ennemi et celui de la pudeur, accuse les belles égyptiennes de Mendès de n'avoir aimé que les boucs, se proposant en secret par cet exemple de faire un tour en Égypte pour avoir enfin de bonnes aventures. Comme il ne connaît pas plus le moderne que l'antique, il insinue, dans l'espérance de s'introduire auprès de quelques vieilles, que notre incomparable Ninon, à l'âge de 80 ans, coucha avec l'abbé Gédouin de l'Académie française et de celle des inscriptions des belles-lettres. Il n'a jamais entendu parler de l'abbé de Châteauneuf, qu'il prend pour l'abbé Gédouin. Il ne connaît pas non plus ni non que les filles de Babylone. Muse, fille du ciel, votre ennemi Larcher fait plus. Il se répand en éloge sur la pédérastie. Il ose dire que tous les bambins de mon pays sont sujets à cette infamie. Il croit se sauver en augmentant le nombre des coupables. Nobles et chastes muses, qui détestez également le pédantisme et la pédérastie, protégez-moi contre Maître Larcher. Et vous, Maître Aliboron, dit Fréron, ci-devant soi-disant jésuite, vous dont le Parnasse est tantôt à Bicêtre et tantôt au cabaret du coin, vous à qui l'on a rendu tant de justice sur tous les théâtres de l'Europe, dans l'honnête comédie de l'Écossaise. Vous, digne fils du prêtre Desfontaines, qui naquitte de ses amours avec un de ses beaux enfants, qui porte un fer et un bandeau comme le fils de Vénus, et qui s'élance comme lui dans les airs, quoiqu'il n'aille jamais qu'aux les cheminées. Mon cher Aliboron, pour qui j'ai toujours eu tant de tendresse et qui m'avait fait rire un mois de suite du temps de cette Écossaise, je vous recommande ma princesse de Babylone. Dites-en bien du mal, afin qu'on la lise. Je ne vous oublierai point ici, gazetier ecclésiastique, illustre auteur des convulsionnaires, père de l'Église fondée par l'abbé Bécherand et par Abraham Chaumex. Ne manquez pas de dire dans vos feuilles, aussi pieuses qu'éloquentes et sensées, que la princesse de Babylone est hérétique, déiste et athée. Tâchez surtout d'engager le sieur Ribalier à faire condamner la princesse de Babylone par la Sorbonne. Vous ferez grand plaisir à mon libraire, à qui j'ai donné cette petite histoire pour ses étrennes.